Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous vivons une drôle de semaine, hein, avec le chaud durant plusieurs jours et la fraîcheur ce matin. Bienvenue en été, hein, et bienvenue à l'église de Saint-Maur. Durant ces mois d'été, nous méditerons sur quatre paraboles de Jésus qui ont toutes un rapport avec le royaume de Dieu. Le royaume que Jésus est venu annoncer, qui s'est manifesté en sa personne, lui que nous reconnaissons comme roi dans cette église. Je l'avais déjà mentionné lors d'un message à la fin de l'année dernière. J'observe un contraste entre Jésus qui a tellement parlé du royaume de Dieu durant son ministère et nous, chrétiens du XXIe siècle, qui en parlons si peu souvent. Je sais que dans d'autres communautés, on parle abondamment du royaume de Dieu, mais pas toujours comme Jésus l'enseigne. Et cela doit aussi nous faire pâlir, parce que les témoins de Jéhovah, qui ne sont pas des chrétiens, sont plus préoccupés que nous par le royaume de Dieu. Leur salle de culte s'appelle d'ailleurs la salle du royaume. Est-ce que cela signifie que le royaume de Dieu ne fait pas partie de nos préoccupations ordinaires ? Est-ce que nous aspirons à ce que ce royaume soit pleinement manifesté avec le retour de notre roi ? Est-ce que nous le désirons, ça ? Est-ce que nous l'attendons ? En tant que chrétien, en tant que citoyen de ce royaume, cette réalité ne devrait jamais être laissée aux oubliettes. C'est pourquoi il m'a paru important de revenir à l'enseignement de Jésus à ce propos. Et ma prière est qu'à l'écoute de ces textes de la parole de Dieu, nous soyons incités par le Saint-Esprit à chercher d'abord, dans notre vie, le royaume de Dieu et sa justice. À nous préoccuper de cette réalité qui était si importante pour Jésus. Alors voici une première parabole, celle que nous avons lue à l'instant, que David nous a lue. Cette première parabole qui parle de la mauvaise herbe, pas seulement. Pour situer un petit peu cette parabole, nous sommes dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, à peu près au milieu de l'évangile, hein. Jésus est de plus en plus connu par son ministère, il est de plus en plus suivi, il enseigne les foules, il guérit les malades, il chasse les démons, et déjà il rencontre de l'opposition. Des pharisiens qui contestent avec lui. Et les commentateurs ont relevé que dans cet évangile de Matthieu, cet évangile est organisé en cinq grands discours. Vous avez le premier grand discours qui est très connu, qui est le sermon sur la montagne, des chapitres 5 à 7. Vous avez le deuxième grand discours que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder, où Jésus donne des instructions à ses disciples avant de les envoyer en mission dans les villes et les villages d'Israël. Ça, c'est le chapitre 10. Et là, en fait, ce matin, nous sommes dans le troisième discours, troisième grand discours de Jésus, qui en fait n'est pas un discours d'un seul tenant, mais qui est une série de paraboles que Jésus raconte à la foule. Une série de paraboles pour parler du royaume de Dieu. Et j'aimerais, sans plus tarder, qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, concernant cette parabole adressée à la foule, pour la foule. Alors, je crois qu'il ne pleut pas en ce moment. Et je vous propose de faire un petit exercice. On n'est pas très nombreux, mais je vais demander à ma femme de pouvoir vous conduire un petit peu dans le parking et de vous montrer que, en fait, chez nous, on a de la mauvaise herbe. C'est parti, on peut se lever tous. Hop. Et vous suivez Damarie, ça va vous montrer tout ce qu'il y a à déraciner sur notre parking. Voilà, ça nous a permis de prendre un peu l'air. Une des choses que ma femme ne supporte pas dans un jardin, vous l'avez deviné, ce sont les mauvaises herbes. Ça pousse de partout et si c'est mal arraché, ça repousse. Si ce n'est pas traité, ça prolifère. C'est envahissant. Et comme me l'a dit un jour mon beau-père, pour se débarrasser d'une mauvaise herbe, il faut aller chercher profondément la racine. Ne pas se contenter juste d'arracher ce qui est à la surface. Il faut aller chercher profondément la racine pour pouvoir s'en débarrasser. Alors penchons-nous donc sur cette parabole qui mentionne une mauvaise herbe. Et l'histoire est assez simple. Nous l'avons lue, je la récapitule en trois phrases. Le propriétaire d'un champ a semé de la bonne semence. Son ennemi a voulu nuire à son travail en semant de la mauvaise herbe. Et enfin, au lieu d'arracher immédiatement cette mauvaise herbe, le maître décide d'attendre la moisson pour s'en débarrasser. Et j'attire votre attention sur quelques détails de cette parabole. Le premier détail, Jésus est en train ici de faire une comparaison. Il parle du royaume de Dieu et vous observez comment il formule les choses. Le royaume des cieux ressemble à tout ce qui est raconté après. Le royaume des cieux ressemble à ce que je suis en train de vous raconter. L'ensemble de cette parabole sert à illustrer, à définir, à caractériser ce que Jésus entend par royaume des cieux et qui clairement ne ressemble pas à un royaume comme un autre, clairement qui ne ressemble pas à l'un des royaumes de la terre. Non, ce royaume ressemble à. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième détail que je voudrais, sur lequel je voudrais insister, c'est cette question de mauvaise herbe. Dans les traductions plus anciennes, on parle d'ivraie. Et peut-être que vous connaissez plus cette version, la parabole de l'ivraie, du bon grain et de l'ivraie. Et en grec, il se trouve que le terme employé est zizania, qui a donné le mot zizanie en français. Et on peut le dire, hein, et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais l'ennemi ici, en fait, dans ce qu'il fait, il sème la zizanie dans le champ du propriétaire. L'ennemi sème la zizanie, au sens littéral, cette mauvaise herbe qui s'appelle la zizanie ou l'ivraie. Et d'après certains spécialistes, nous avons trouvé dans le droit romain une loi qui condamne une telle pratique. Donc ça montre bien que Jésus, quand il raconte cette histoire, il fait référence à un acte malveillant qui était peut-être monnaie courante à l'époque. Il n'était pas rare que quelqu'un, par rivalité, par concurrence, aille semer de mauvaises herbes dans le champ d'un autre. Alors, il faut vraiment se replacer dans l'époque, hein, à une époque où l'agriculture était de grande importance, où on vivait de cela. Mais malgré ce sabotage, et là, c'est le troisième élément sur lequel j'aimerais insister, et c'est sans doute l'élément le plus étonnant, c'est que le maître du champ ne cherche pas tout de suite à appliquer une solution. Il y a la mauvaise herbe, il le constate avec ses serviteurs, mais il n'agit pas tout de suite, il ne va pas arracher cela tout de suite. Ses serviteurs se disent, oui, la seule solution, c'est de s'en débarrasser, arrachons tout ça. Et le maître, plein de sagesse, dit non. Non, si vous faites cela, vous arrachez en même temps le bon. Et sans doute que, en fait, en profondeur, ce qu'on ne voit pas à la surface, en profondeur, les racines sont entremêlées. Et donc, si on arrache l'un, forcément, on emporte l'autre aussi. Le maître dit non, ne faites pas cela. Sa réponse au verset 30 que vous avez sous les yeux est étonnante. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Laissez la mauvaise herbe pousser. Qui agit ainsi de nos jours ? À part nous, si on laisse encore longtemps les mauvaises herbes dans le parking. Mais qui agit ainsi ? Nous sommes plus souvent enclins à résoudre immédiatement un problème, sans attendre, à réparer après un acte malveillant. Qui attendrait ainsi en laissant la mauvaise herbe s'installer ? Visiblement, le maître qui est dans notre parabole. Il attend. C'est étonnant. Quatrième détail que je voudrais souligner dans cette parabole, c'est que cette histoire nous est annoncée comme une histoire qui va se terminer bien. Ce que l'ennemi a semé sera finalement arraché et jeté au feu, et le blé sera récolté. Voilà comment ça doit se terminer. Le maître n'aura pour ainsi dire rien perdu de sa bonne semence. Ce qu'il aura semé, il pourra le récolter intact. C'est un heureux dénouement que projette le maître. Voilà la parabole qui est présentée à la foule, que Jésus raconte à la foule. Et dans l'extrait que nous n'avons pas lu, il raconte deux autres paraboles tout de suite après. Nous n'allons pas les aborder, hein, mais deux autres paraboles au sujet du royaume des cieux, comparées l'une à une graine de moutarde et l'autre à du levain. Et à la foule, Jésus ne donne pas d'interprétation. Il n'explique pas les paraboles qu'il est en train de raconter à la foule. Un peu plus tôt, il dit à ses disciples pourquoi il fait cela. Pourquoi il ne dit pas, donne pas d'explication à ce qu'il est en train de raconter. Eh bien, Jésus répond que c'est un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu à l'égard de ceux qui ne veulent pas réellement s'intéresser au message que Jésus est en train d'apporter. Un jugement à l'égard de ceux qui ne s'intéressent pas réellement au royaume de Dieu. S'ils veulent savoir, en réalité, ils poseraient des questions. Non, les explications sont réservées à celles et ceux qui veulent en savoir plus. Est-ce que vous voulez en savoir plus ? Est-ce que vous voulez mieux comprendre ce qu'est le royaume des cieux ? Et Jésus dit bien à ses disciples, au verset 11, c'est très clair, donc c'est un peu plus tôt dans notre passage, « Parce qu'il vous a été donné à vous, les disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, la foule, cela n'a pas été donné. » Le décryptage, la compréhension de ces paraboles est donnée en particulier à celles et ceux qui veulent suivre Jésus. Pour les autres, en fait, ça n'a pas grand intérêt, au bout du compte. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas comprendre. Pour ceux qui ne recherchent pas le royaume de Dieu, qui sont peut-être plus préoccupés par les affaires terrestres, ce que Jésus dit demeure énigmatique, sous forme d'image. C'est juste une belle histoire. Mais en fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Qu'est-ce que représente finalement cette mauvaise herbe ? Et toutes ces questions, eh bien, les disciples devaient les avoir en tête, puisqu'après l'enseignement de Jésus, ils viennent le questionner. Et c'est ce que nous voyons dans un deuxième temps, une explication pour les disciples. Nous le lisons au verset 36. Alors Jésus renvoya la foule à qui il s'adressait et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Ce qui a marqué les disciples dans cette parabole, ce qu'ils retiennent, vous voyez comment il en parle, comment il l'intitule, c'est la parabole de la mauvaise herbe. C'est ça qui les a marqués, la mauvaise herbe. Explique-nous cette parabole, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette mauvaise herbe qui pousse dans le champ et que le maître laisse pousser. Alors cela mérite effectivement des explications. Et Jésus, notre maître, commence par établir quelques correspondances. Je les relis à partir du verset 37. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe ou l'ivraie, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui a semé cette mauvaise semence, eh bien, c'est le diable. Et la moisson, à la fin de l'histoire, c'est la fin du monde. Les moissonneurs qui vont se charger de ce travail, ce sont les anges. Super, Jésus nous donne toutes les clés nécessaires pour comprendre cette parabole. Donc, impossible de chercher à interpréter autrement cette histoire, de se dire, en fait, peut-être que la mauvaise herbe représente le péché qui est dans mon cœur, etc. Non, vous pouvez pas aller à l'encontre de ce que Jésus est en train de donner comme clé d'interprétation. Non, Jésus dit que la mauvaise herbe, ce n'est pas le péché qui est dans mon cœur, mais ce sont les personnes qui, finalement, ne suivent pas Jésus. Jésus donne toutes les explications nécessaires. Ça veut dire qu'il n'explique pas tous les éléments. Par exemple, il ne dit pas ce que signifie le fait que les gens dormaient à ce moment-là, au moment où l'ennemi est venu saboter le champ. Il ne donne pas d'explication à ce sujet-là. Il ne dit pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance dans le message que Jésus veut faire véhiculer. Donc, il est important, mes amis, de tenir compte de ce principe d'interprétation pour les paraboles, à savoir... Tous les détails d'une parabole ne sont pas à interpréter. Tous les détails que vous trouverez dans une parabole ne sont pas des éléments nécessairement à interpréter, n'ont pas nécessairement un sens caché. Certains détails sont juste là pour la cohérence de l'histoire, pour comprendre ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Si je vous raconte une anecdote qui va être fictive et que je vous dis qu'hier, j'étais au supermarché, et que le caissier avait un t-shirt rouge, et qu'il était très aimable. Vous n'allez sûrement pas me demander ce que signifie ce t-shirt rouge. Vous n'allez sûrement pas me dire, mais pourquoi il a mis du rouge ce jour-là? Vous allez vous intéresser à ce que je vous raconte ensuite. Qu'est-ce que j'ai acheté peut-être ou je ne sais quoi. Tous les détails d'une parabole ne sont pas significatifs. D'accord? De la même manière, dans une parabole, il nous faut nous attarder donc sur ce qui est important. Et ici, c'est parfait parce que Jésus nous donne l'explication, nous dit comment il faut comprendre ce qu'il est en train de raconter. Et nous assistons ici à cette explication en privé qu'il a avec ses disciples. La foule n'entend pas cette explication. Elle est pour ses disciples. Elle est pour nous, ce matin. Et en fait, Jésus ne revient pas sur le début de l'histoire. Il ne revient pas sur le moment où le Fils de l'homme sème la bonne semence. Il ne revient pas sur le moment du sabotage. Il n'en parle pas ici, à part pour mentionner qui est qui. Non, il oriente nos regards sur la fin de l'histoire, sur ce qui se passe au moment de la moisson, sur ce que fait le Fils de l'homme, sur ce qu'il ordonne aux anges, sur ce qui arrive finalement aux enfants du mal, puis aux enfants du royaume. C'est ce que nous voyons à partir du verset 40. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La moisson, nous dit Jésus, c'est la fin du monde dans son histoire. La fin de ce monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. La fin de l'histoire humaine entachée par le péché. Au moment fixé par Dieu, Jésus reviendra et il interviendra pour juger tous les hommes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Au moment où le royaume de Dieu sera le plus éclatant, le plus manifeste, les anges recevront l'ordre de faire le tri parmi les hommes pécheurs. Les uns seront comme la mauvaise herbe, jetés au feu, et les autres brilleront de mille feux. Et le verset 41 nécessite peut-être quelques explications. Quand Jésus dit que les anges arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, cela ne signifie pas que les méchants faisaient partie de son royaume, initialement. L'action d'arracher, en fait, rappelle ce que nous avons dans la parabole. C'est le travail des moissonneurs. Ici, il faut comprendre que cet arrachement renvoie, en fait, à l'exclusion des pécheurs endurcis, qui n'ont jamais eu, en fait, leur place dans le royaume. Et le terme piège que vous avez ici qualifie en fait les personnes qui provoquent la chute des autres, qui sont un piège pour les autres. La traduction du semeur propose « tous ceux qui font tomber les autres dans le péché ». Voilà ce qu'il faut comprendre derrière ce terme « piège » ou « scandale ». C'est ceux qui font tomber les autres dans le péché. Le sort de ces gens est terrible ici. Et je crois qu'il ne faut jamais le minimiser, qu'il ne faut jamais le taire, qu'il faut toujours en parler, parce que la Bible en parle, parce que le Seigneur Jésus en parle. La fournaise de feu ici est une image, et il faut quand même le mentionner, c'est une image, mais une image terrible pour décrire le fait d'être exclu définitivement, éternellement, de la présence de Dieu. Le fait de ne pas avoir sa place dans le royaume, c'est aussi terrible qu'une fournaise de feu. Et puis ces grincements de dents que vous avez et qui sont mentionnés ici, ce n'est pas des grincements de dents de colère, parce que parfois on peut associer le grincement de dents à de la colère, on est tellement énervé, remonté peut-être contre Dieu qui nous punit ainsi. Non, ici les grincements de dents renvoient au regret. Ces gens grincent des dents parce qu'ils regrettent de ne pas avoir fait le bon choix. Ce regret perpétuel de ne pas avoir conformé sa vie à la volonté de Dieu, c'est-à-dire en se confiant en Jésus-Christ. Ce regret continu de ne pas avoir recherché le pardon de Dieu pour ses péchés, d'avoir ignoré cela toute sa vie. Le regret permanent d'avoir refusé jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, l'offre de l'Évangile qui conduisait à la vie éternelle. Un regret permanent, éternel, un remords atroce, pour toujours. C'est ça qui nous est décrit ici. Et c'est ça qui attend celles et ceux qui refusent l'Évangile, qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Et vous voyez bien que je ne suis pas en train d'exagérer. Et Jésus ici n'est pas en train non plus d'exagérer. Le royaume de Dieu ne comportera un jour, ne comportera aucune mauvaise herbe. Tous ceux qui auront suivi, même sans le savoir, la voie du diable, seront définitivement perdus. Définitivement. Jésus est en train de décrire ici, mes amis, une réalité à venir. C'est une réalité. Ce n'est pas une projection, ce n'est pas un rêve. Ce n'est même pas un désir. C'est une réalité. Une réalité effrayante pour celles et ceux qui continuent de dire non à l'Évangile, qui continuent de dire non à Jésus-Christ, qui refusent de changer de vie. Mais l'explication de Jésus, comme la fin de la parabole, termine sur un élément positif. Parce que le blé qui est rentré dans les greniers, ce sont les enfants du royaume qui entrent dans le royaume de Dieu, dans une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Regardez au verset 43, la description lumineuse de ce qui attend celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Ils vont briller comme le soleil. Alors bien sûr, ici, nous avons de nouveau une image. Mais quelle belle image. Une image pour évoquer la gloire à laquelle les enfants de Dieu auront part. Ils vont briller comme le soleil. Et nous retrouvons une image similaire, parce qu'en fait, ici, sans doute que Jésus fait allusion aussi à un texte antérieur, dans le livre de Daniel, le livre du prophète Daniel. À la fin de ce livre, au chapitre 12, nous lisons exactement ces éléments-là. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. On parle de la résurrection ici. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront, alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Est-ce que vous y croyez que l'avenir s'annonce de cette manière-là? Tant de gloire pour des êtres pécheurs qui ne l'ont pas mérité, mais qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui ont été justifiés. Tant de gloire nous est réservée à nous qui avons placé notre foi en Christ. Imaginez un seul instant que Jésus est en train de décrire ici l'avenir de ses disciples. Si vous croyez en moi, vous allez briller comme le soleil. C'est infiniment mieux que n'importe quelle gloire ici-bas. Vous ne trouverez pas mieux. Si vous cherchez la gloire ici-bas, vous ne trouverez pas mieux que ce que Jésus promet ici. Tout ce que Jésus dit de la fin du monde est repris aussi dans l'Apocalypse de Jean. Et je lirai juste cet extrait qui décrit la Nouvelle Jérusalem. Pour rester encore un instant focalisé là-dessus. Apocalypse chapitre 21, versets 22 à 27. Dans cette vision que l'apôtre Jean a, « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Comme nous le lisons encore ici, cet avenir glorieux n'est pas pour tout le monde. Mais si aujourd'hui nous entendons cette parabole de Jésus, si aujourd'hui nous entendons l'explication que Jésus en donne, cela signifie qu'il est encore temps de répondre positivement à son appel. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer par cette dernière partie. Pourquoi Jésus, en fait, raconte tout cela ? Pourquoi Jésus raconte une parabole où il est question d'une moisson, où un tri sera fait entre le blé et l'ivraie ? Est-ce que Jésus veut juste nous informer de ce qui va arriver et nous donner simplement une information ? Ou est-ce que son intention est de faire savoir à ceux qui veulent savoir, à ceux qui veulent comprendre qu'il y aura un jugement, qu'il y aura un juste tri entre les bons et les mauvais ? Il est judicieux de la part de notre Seigneur d'insister sur la moisson, sur la fin de l'histoire, sur ce qui n'est pas encore. Parce qu'aujourd'hui, il est encore possible de prendre une décision. Aujourd'hui, il est encore possible de changer sa manière de vivre. Aujourd'hui, il est encore possible de répondre à l'appel de Jésus, de lui faire confiance, de le suivre. Il est encore temps d'être un enfant du royaume et de ne pas finir comme la mauvaise herbe, dans des regrets sans fin, éternellement séparés de Dieu. Il est encore temps. Certains d'entre nous ici ne sont pas chrétiens. Et l'appel est pour vous ce matin. Un appel à vous tourner vers Jésus, qui est le seul à pouvoir vous faire entrer dans son royaume. Ce n'est pas moi qui vais vous faire entrer dans son royaume, c'est Jésus. C'est lui qui nous jugera. Mais avez-vous déjà, dès aujourd'hui, une relation avec celui qui sera notre juge ? Jésus est venu pour donner sa vie, pour mourir à la croix, à la place des pécheurs que nous sommes. Et tout péché mérite la mort, tout péché mérite la séparation avec Dieu et nous place sous la condamnation. Mais dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils pour que justement il paye ce prix et qu'il puisse subir cette condamnation pour nous faire échapper à tout ce que je vous ai décrit, pour que nous ne soyons pas exclus de son royaume. Est-ce que tu le crois ? Es-tu prête à tout quitter pour suivre Jésus ? À quitter cette manière de vivre qu'ont la plupart de nos contemporains, où tout est centré sur soi, où tout est centré sur son bonheur, qui est pourtant éphémère. Jésus appelle à le suivre en renonçant à soi-même. Jésus t'appelle encore ce matin à mettre ta confiance, ta foi en lui et en aucun autre. Et ce n'est pas une décision à prendre plus tard. C'est aujourd'hui que tu peux passer des ténèbres à la lumière. C'est aujourd'hui que tu peux passer de la mort à la vie. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision par rapport à Jésus. Et je le redis, certains d'entre nous ici n'ont pas encore pris cette décision. Et pour celles et ceux qui ont déjà mis leur confiance en Christ, cette parabole contient peut-être un double appel. Un appel à la patience et un appel à l'espérance. Et pour le premier point, eh bien, je m'inspire des réflexions d'un pasteur québécois, Stéphane Réaume, qui a récemment écrit sur les paraboles du royaume. Nous l'avons dit un peu plus tôt, le maître du champ a ordonné à ses serviteurs de laisser pousser ensemble la bonne semence et la mauvaise herbe, et à attendre la moisson. Frères et sœurs, il s'agit pour nous d'attendre la moisson, la fin du monde, le retour du Seigneur, le jugement dernier. Il ne s'agit pas pour nous de chercher à établir le royaume de Dieu sur terre par la contrainte et par la force. Il ne nous revient pas d'arracher la mauvaise herbe. Ce n'est pas notre travail. Il ne nous revient pas de nous en prendre aux non-croyants et de les forcer à croire. Parce que parfois, dans l'histoire de l'Église, il y a eu de tels actes. Cela paraît peut-être évident quand je vous dis ça, de ne pas chercher à établir le royaume de Dieu par la force. Mais on entend dans certains milieux qu'il faut conquérir des territoires pour Jésus, qu'il faut faire venir le royaume de Dieu sur terre, qu'il faut mettre partout la bannière de Jésus. Est-ce ce que Jésus demande ? Est-ce que cela correspond à son enseignement ? Est-ce que c'est ce qu'il demande ? Est-ce que Jésus nous demande de prendre, si on devait exagérer encore, prendre les armes, renverser le gouvernement actuel, afin que le règne de Christ soit visible par tous ? Est-ce que c'est ce que Jésus demande ? Définitivement non. Définitivement non. Jésus ne nous enseigne pas à conquérir des territoires. Ce langage est tellement étranger à la parole de Dieu. Cela ressemble à de l'extrémisme, en fait, ce que je vous décris là, que nous voyons dans d'autres religions, qui veulent imposer leurs lois. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le royaume des cieux ne ressemble pas à un des royaumes de la terre qui avance par la conquête. Au contraire, le royaume des cieux, c'est comme cette bonne semence qui pousse dans le champ, à côté de la mauvaise herbe, jusqu'au jour de la moisson où un tri sera fait. Le jugement dernier, encore une fois, n'est pas notre mission. Le Seigneur s'en chargera, car lui seul en a l'autorité. Quant à nous, il faut patienter. C'est un appel à la patience. Attendre le jour où Jésus reviendra. Ce qui ne signifie pas que face aux injustices, face au mal grandissant, face au péché de notre société, nous devons rester passifs. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Non, il nous est possible de dénoncer l'injustice, d'exprimer notre désaccord, même par des pétitions, si certaines lois s'écartent de l'éthique chrétienne, de prier pour nos autorités afin qu'ils gouvernent de façon sage. Et en faisant tout cela, eh bien, nous ne sommes pas en train d'arracher la mauvaise herbe. Notre réaction face au mal doit en fait refléter que nous sommes d'un autre royaume. Que nous avons des valeurs qui n'épousent pas les valeurs de ce monde. C'est pourquoi nous nous exprimons, c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Mais en aucun cas, nous allons contraindre qui que ce soit à nous obéir. Au milieu de tout ça, comme Jésus l'a enseigné quelques chapitres avant le chapitre 13, nous prions notre Père en lui demandant que ton règne vienne. C'est à Dieu d'établir son royaume au moment qu'il aura fixé, et nous sommes appelés à respecter son agenda, à attendre la moisson. Et ce n'est pas si facile que ça, vu le mal grandissant. Je parlais d'un double appel, un appel à la patience, mais aussi un appel à l'espérance. Parce que les deux, bien sûr, sont étroitement liés. Notre bienheureuse espérance est que ce monde dans lequel nous luttons contre toute forme de mal prendra fin. Jésus parle bien de la fin du monde. Ne soyons pas dans l'illusion que ce monde sera toujours ainsi éternellement. Non, ce monde prendra fin. Ce monde rempli d'injustice, rempli de guerre, de souffrance, de maladie, de mort, sera un jour de l'histoire ancienne. Notre juste juge interviendra pour rendre une pleine justice, une justice parfaite, et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de voir cette justice parfaite, où tous les torts seront réparés, où tous ceux qui ont été victimes d'injustice seront effectivement pris en compte et où ceux qui auront commis des injustices, ceux qui se seront révoltés contre le Seigneur, paieront le prix. Nous avons besoin de voir cette justice-là, mais elle n'est pas encore. Mais c'est notre espérance. Jésus place ce matin sous nos yeux l'espérance du royaume de Dieu, où il n'y aura plus personne pour faire le mal, car tous ceux qui commettent le mal auront été exclus du royaume. N'est-ce pas ce monde-là auquel nous aspirons, un monde où plus personne ne fera le mal? Un monde où le mal aura disparu, où la justice habitera. Et gare aux imposteurs qui crient « Seigneur, Seigneur !» Jésus dit d'eux qu'il ne les connaîtra pas, eux qui commettent le mal. Seuls, celles et ceux qui font la volonté de leur Père céleste prendront place dans le royaume de leur Père. Au milieu de tout ce qui nous attend cet été, vacances, mariage, auquel on est invité, et autres projets réjouissants, gardons à l'esprit cette espérance. Gardons à l'esprit ce qui est encore à venir dans le calendrier de Dieu. Gardons à l'esprit, avec ce schéma que nous avons, que je vous présente et que vous connaissez sans doute, qui est issu d'un livre qui s'appelle « Le panorama de la Bible » de Roberts, ce schéma qui nous montre, en fait, que le royaume de Dieu est venu en la personne de Jésus. C'est le deuxième cercle. Est venu en la personne de Jésus et progresse sur terre, souvent de manière discrète. Les réveils où d'un coup il y a une masse de conversions, les réveils en fait ne sont pas si fréquents, ni durables. Mais nous le savons par le témoignage de frères et sœurs que des gens continuent de nos jours de croire en Jésus et de compter sur lui pour leur salut. Le royaume de Dieu progresse, tel le blé qui est en train de grandir dans ce champ qu'est le monde. Mais il y a encore une étape, c'est l'étape de la moisson, du jugement de ce monde, avant de profiter pleinement de la vie éternelle, dans le royaume de notre Père, en présence de Jésus notre Roi, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a ainsi préparé une place. Alors que son Esprit nous donne d'avoir les oreilles pour comprendre tout cela. Au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, nous le savons ce matin, nous avons une espérance. Les chrétiens ont une espérance. Vous l'aurez compris, le royaume de Dieu est une réalité progressive qui s'est manifestée quand Jésus est venu, qui se manifeste encore aujourd'hui quand Jésus règne sur nous et qui sera pleinement établi sur terre quand Jésus reviendra. Le royaume de Dieu est une réalité progressive. Et comme l'écrit Stéphane Réaume, Dieu seul peut voir le monde en deux catégories. Lui seul peut distinguer le blé et l'ivraie parce qu'il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Nous en sommes incapables. Mais lui, il le voit. Et le blé et l'ivraie ne sont pas d'abord des catégories morales pour dire « lui, il fait le bien, lui, il fait le mal ». Ce n'est pas ça. Non, ce sont des catégories qui désignent le fait de se positionner pour ou contre Jésus. Le blé, ce sont ceux qui sont pour Jésus. L'ivraie ou la mauvaise herbe, ce sont ceux qui sont contre lui ou qui sont indifférents à son égard ou qui ne tiennent pas compte de lui. Mais c'est certain, pour ce matin, Jésus t'appelle à avoir confiance en lui. Il ne t'appelle pas à faire partie de l'ivraie, il t'appelle à faire partie de la bonne semence. Et s'il en est ainsi, si tu as mis ta foi en lui, alors tu as une heureuse espérance. Cette gloire que nous avons pris le temps de décrire, cette gloire qui est réservée aux enfants du royaume. Alors qu'il en soit ainsi, et je vous invite à prier. Notre Père céleste, merci pour ta parole Merci pour cette parabole aussi qui nous rappelle ton calendrier, qui nous rappelle ce que tu as encore en vue, ce que tu as annoncé déjà d'avance et qui doit encore se produire. Cette fin du monde que d'une certaine manière, après laquelle nous aspirons, eh bien que cette fin du monde est encore à venir. Que le jugement de ce monde, et nous serons compris aussi dans ce jugement, eh bien que ce jugement est encore à venir. Mais quelle espérance, Seigneur, tu nous laisses de savoir que oui, tes enfants brilleront comme le soleil dans ton royaume. Peut-être que nous avons du mal à l'imaginer encore ce matin. Peut-être que même nous avons peine à croire que ce sera ainsi. Pourtant, dans ta bonté immense, dans ta grâce incomparable, c'est ce que tu as décidé pour celles et ceux qui veulent suivre Jésus. Et je veux encore te prier pour les personnes ici qui n'ont pas encore pris une telle décision, qui peut-être même ne se posent pas la question. Je te prie, Seigneur, que tu les attires à toi. Oui, Seigneur, nous nous en remettons à ta grâce pour que nous puissions aussi être patients. Patients jusqu'à ce jour certain où Christ reviendra et où il établira ton royaume. Ce royaume après lequel nous aspirons tant. Oui, c'est ce royaume de Dieu. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions en faire notre préoccupation. Que cela puisse occuper nos pensées encore durant cet été en particulier. Nous te bénissons encore pour tout ce que tu nous as dit ce matin dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Sans transition, je voudrais introduire ce moment de Sainte-Cène par la lecture d'un texte qui est dans la suite de l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Le soir venu, il, c'est-à-dire Jésus, se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Même dans cet extrait que je viens de lire, il est question du royaume de Dieu. Jésus institue ce repas pour que, de génération en génération, tous ses disciples puissent constamment se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est ça qui est le plus important dans notre vie à chacun d'entre nous. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est le fait qu'il ait livré son corps jusqu'à la mort. Le fait qu'il ait versé son sang, qu'il ait laissé son sang couler atrocement sur cette croix. Et tout cela pour représenter une mort que nous méritions. Lui n'a rien fait. Lui est innocent. Mais il a bien voulu être ce sacrifice qui paye pour nous, pour que nous puissions faire partie de son royaume. Donc si cette réalité et ces vérités résonnent encore en vous, alors nous allons prendre ce temps pour prendre le repas du Seigneur, pour pouvoir nous souvenir encore de l'acte si rempli de grâce et d'amour que le Seigneur a fait pour nous. Nous souvenir de cela en particulier. Et c'est pourquoi je demanderai à mes frères et sœurs qui comprennent tout ce que je suis en train de dire, qui vivent en fonction de ce que je suis en train de dire, qui ont aussi montré publiquement leur foi par les eaux du baptême, à pouvoir se lever pour pouvoir prendre la scène avec moi.